VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 7 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les deux principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre battent campagne dans les provinces.
Au Tchad, l'ex-chef rebelle Baba Ladé a été condamné hier à 8 ans de prison ferme.
Au Cameroun, début hier au tribunal militaire de Yaoundé, du procès du leader séparatiste anglophone Julius Sissoko Ayouktabé.
Au Mali, 4 à 7 personnes ont été tuées dans un affrontement impliquant l'armée mercredi dans le centre du pays.
Les partenaires du G5 Sahel ont porté à 2,4 milliards d'euros leur aide pour la mise en œuvre d'une quarantaine de projets de développement.
Les États-Unis veulent poser des conditions drastiques à un éventuel financement par l'ONU de futures opérations de paix en Afrique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, les trois principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre poursuivent leur campagne. Après Beni et Boutembo, Martin Fayoulou est arrivé jeudi soir à Goma, où il a prononcé un discours devant des milliers de personnes. Le ticket Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe est à Bukavu, tandis qu'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la coalition au pouvoir, a lui promis, lors d'un meeting à Mbandaka, dans l'ouest de la RDC, de mettre en prison les auteurs des détournements de deniers publics. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après ses succès populaires à Beni et Boutembo, Martin Fayoulou est arrivé jeudi soir à Goma. Devant une foule immense au terrain Afia, le candidat de la coalition Labunka a sévèrement critiqué le règne de Joseph Kabila qui, selon lui, est caractérisé au Nord Kivu par l'insécurité et l'absence de l'état de droit. Martin Fayoulou, qui avait promis la veille à la population de Beni de venir s'installer avec son gouvernement sur place s'il est élu président pour mettre fin aux tueries dans cette région. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont eux adressés jeudi soir à la population de Bukavu, très mobilisée malgré l'heure tardive à laquelle s'est tenu ce meeting. Ils leur ont promis, une fois Félix Tshisekedi, le candidat du ticket UDPS-UNC élu président, d'améliorer les conditions de vie des militaires et policiers, de combattre l'insécurité et l'impunité et de ramener la sécurité dans le Grand Kivu. Pendant ce temps, Ramazani Shadary poursuit son opération séduction dans le Grand Équateur. Malgré une forte pluie, le candidat de la coalition au pouvoir a, dans un meeting devant une grande foule à Mbandaka, promis de s'investir dans la lutte contre les détournements des deniers publics s'il est élu. Je mettrai en prison toute personne, quel que soit son rang social, qui sera reconnue coupable de détournement, a promis le candidat du Front commun pour le Congo qui a fait de la corruption son cheval de bataille. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, l'ex-chef rebelle Mahamat Abdelkader, alias Baba Ladé, a été condamné hier à 8 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, incendie volontaire et viol. Le point avec Morgane Guiriec.
Emprisonné depuis 2015, Baba Ladé a été présenté hier pour la première fois au juge de la cour criminelle à N'Djamena. Entré en rébellion en 98 au Darfour, dans l'est du Soudan, Baba Ladé, ou roi de la forêt, en langue peul, s'était rendu en Centrafrique en 2008, où il disait vouloir libérer les éleveurs peul épaulés par Aline Daras, actuel chef de l'UPC, un des groupes armés centrafricains. Revenu au Tchad en 2013 comme conseiller du Premier ministre, puis nommé en 2014 préfet de la Grande Sido dans le Sud, avant d'être démis de ses fonctions, il va se réfugier en Centrafrique où il a été accusé de nombreuses exactions. Arrêté en décembre 2014, Baba Ladé a été extradé un mois après vers le Tchad pour être inculpé. Il n'a donc pas bénéficié de l'amnistie décrétée en mai par le président Idriss Déby Itno. En août dernier, son état de santé a inquiété Dobiang Asingar, représentant de la FIDH, mais le ministre de la Justice avait rejeté toute forme de maltraitance à la maison d'arrêt. Baba Ladé a déjà passé plusieurs années au bagne de Korotoro, dans le nord désertique, connu comme le lieu de détention le plus difficile du Tchad.
Au Cameroun, le procès du leader séparatiste anglophone Julius Sissoko Ayouktabé, accusé notamment de terrorisme et de sécession, a débuté hier au tribunal militaire de Yaoundé avant d'être renvoyé au 10 janvier, Nanit Talani.
Président autoproclamé de l'Ambazonie, nom de l'État que les séparatistes veulent créer au Cameroun anglophone, Julius Sissiku Ayuk Tabe a comparu pour la première fois depuis son arrestation au Nigeria et son extradition au Cameroun en janvier avec 46 autres personnes. Ils sont accusés d'apologie d'actes de terrorisme, sécession, financement d'actes de terrorisme, révolution, insurrection et hostilité contre la patrie. La présidente du tribunal militaire a renvoyé le procès au 10 janvier à la demande des avocats de la défense qui ont sollicité du temps pour prendre connaissance du dossier. Le parquet entend présenter 70 témoins à charge. Plus de 80 avocats anglophones et francophones assurent la défense des accusés. La justice camerounaise avait déjà rejeté en appel à la mi-novembre la demande de libération de M. Tabe. Depuis fin 2017, des séparatistes ont pris les armes dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, devenues le théâtre d'affrontements qui ont fait, selon certaines ONG, près de 500 morts.
Au Mali, 4 à 7 personnes ont été tuées mercredi dans le centre du pays dans un incident impliquant l'armée. Cette dernière affirme avoir été visée par des terroristes à Sadia dans la commune de Kanibonzo, ajoutant qu'un élément des FAMA a trouvé la mort et que côté assaillant, le bilan est de 6 morts. Ce sont 4 peuls combattants de notre mouvement qui ont été tués, a toutefois affirmé à l'AFP le président du Ganda Iso, un groupe d'autodéfense à dominante peul, Mohamed Ataïb Sidibé.
Objectif atteint et même dépassé, réunis à Nouakchott, les partenaires du G5 Sahel ont porté jeudi à 2,4 milliards d'euros leur aide pour la mise en œuvre d'une quarantaine de projets de développement destinés à endiguer les violences djihadistes dans cette vaste zone au sud du Sahara.
Deux hauts responsables de l'armée somalienne ainsi que 5 de leurs soldats ont été tués hier dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi non loin de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par des islamistes Shabab. Irénée Herman Ungbo.
Le général Omar Adan Hassan, à la tête de la 12e brigade de l'armée somalienne et son adjoint chargé des opérations, le général Abdi Ali Jamam, rentrait à Mogadiscio après avoir visité une base militaire au sud de la capitale. Les terroristes ont installé un engin explosif qui visait le véhicule transportant le général Omar, a indiqué Mohamed Adan, un responsable militaire. La mort du général est confirmée ainsi que celle de 6 autres membres de l'armée nationale, dont le commandant des opérations militaires. Abdoulaye Ahmed, un autre responsable militaire a précisé que les victimes voyageaient à bord d'un pick-up. La plupart des passagers ont été tués. L'explosion avait également blessé 2 soldats. Les généraux tués étaient les 2 hauts responsables militaires de la région de Bassechabel, une des régions où l'armée somalienne combat les islamistes Shabab affiliés à Al-Qaïda et qui ont revendiqué l'attaque.
Les États-Unis veulent poser des conditions drastiques à un éventuel financement par l'ONU de futures opérations de paix en Afrique. La Côte d'Ivoire souhaite l'adoption d'une résolution la semaine prochaine. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Ce projet des 3 pays membres africains du Conseil de sécurité, Éthiopie, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, prévoit que l'ONU puisse financer au cas par cas à hauteur de 75% les opérations de maintien de la paix en Afrique. La proposition est soutenue par la France et la Chine. Pour ses concepteurs, le projet vise à avoir une résolution cadre qui fixe le principe d'un cofinancement pour l'avenir. Ensuite, il y aura des projets en fonction des missions avec un mandat de l'Union africaine endossé par une résolution du Conseil de sécurité, selon un diplomate. Parmi ces conditions, Washington demande que l'Union africaine fournisse un rapport au Conseil de sécurité d'ici 6 mois sur ses efforts pour protéger les droits humains, renforcer ses capacités de financement et améliorer la discipline de ses troupes. Les États-Unis réclament aussi que le secrétaire général de l'ONU fasse ensuite un rapport sur la capacité de l'Union africaine à mener de futures opérations de maintien de la paix sur la base de normes équivalentes à celles qui prévalent pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU actuelle en Afrique. Washington est le premier contributeur financier à l'ONU et cherche à réduire ses dépenses.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Donald Trump va nommer, selon des agences de presse américaines, la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, en remplacement de Nikki Haley qui, en octobre dernier, a annoncé son départ de ce poste à la fin de l'année. La nomination de Heather Nauert devrait être annoncée aujourd'hui dans un tweet présidentiel. Avant le département d'État, Madame Nawat était journaliste à Fox News. Elle a aussi travaillé pour ABC News. On l'a dit proche de la Maison-Blanche et du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Pour rappel, sa nomination devra être entérinée par le Sénat.
Le Congrès américain a prolongé hier jusqu'au 21 décembre une loi budgétaire partielle, ce qui repousse à cette date la menace d'une paralysie de certaines administrations si démocrates, républicains et Donald Trump ne parviennent pas d'ici là à un accord de financement. La lutte contre l'immigration clandestine et le fameux mur voulu par le président à la frontière avec le Mexique sont au cœur des tractations en coulisses. La date butoir de cette renégociation avait d'abord été fixée à ce vendredi minuit, mais les nombreuses cérémonies et la journée de deuil national décrété mercredi après le décès de l'ancien président George H.W. Bush, ont ralenti les débats. La Chambre des représentants a donc accepté jeudi à l'unanimité de prolonger les financements partiels. Le Sénat a ensuite approuvé la mesure sans opposition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Angola vient de lancer un projet de 230 millions de dollars en faveur de l'agriculture commerciale. D'une durée de 6 ans, cette initiative concernera dans sa première phase les zones favorables à l'agriculture. L'objectif est d'impulser le développement agricole et d'accroître les revenus des producteurs. Le projet s'accentuera sur le développement de l'agrobusiness et des infrastructures en ciblant particulièrement les routes rurales et les canaux d'irrigation. Au Ghana, SunPower Generation a annoncé la résiliation du contrat de conception, d'approvisionnement et de construction de la centrale à gaz de Kpone, conclue avec Group 5 International. Cette centrale à gaz à cycle combiné aura une capacité de 350 MW et sera implantée dans la zone industrielle de Tema. L'infrastructure, dont la mise en service était prévue pour septembre 2017, avait plus d'un an de retard à cause de l'incapacité de Group 5 à assurer ses obligations. À cause de cela, le contrat a été résilié. Terminons avec les pays producteurs de pétrole qui se rencontrent pour une dernière journée de discussion destinée à trouver les modalités d'une baisse de production fébrilement attendue par les marchés pour enrayer la chute des cours du pétrole.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal domine le Burkina Faso au tournoi UFOA des moins de 20 ans.
Oui, les Sénégalais se sont imposés 2-0 devant le Burkina Faso pour le compte du match d'ouverture. Les Lions de la Teranga Junior prennent ainsi une option sérieuse pour le second tour. Mais bien avant, ils affronteront le Mali ce samedi à partir de 15h, alors que le Burkina Faso sera aux prises avec le pays hôte, le Togo.
On connaît les affiches des 16e de finale en Ligue africaine des champions.
30 équipes sont en lice, exemptés de tours préliminaires, de grosses formations font leur entrée dans la compétition. Le Wydad Casablanca fera face au Jaraf Dakar. Mission compliquée pour les Éthiopiens de Djima Abba Djifar devant les Égyptiens d'Al Ahly, finalistes malheureux de la dernière édition. Le TP Mazembe jouera contre les Zambiens de Zesco United et Vita Club contre Bantou du Lesotho. Au programme aussi, un derby nord-africain entre la JS Saoura et l'Etihad Tanger et le choc ouest-africain entre le Stade malien et l'ASEC Mimosa. Les vainqueurs de cette double confrontation accéderont à la phase de groupe tandis que les perdants seront reversés en barrage de la Coupe de la Confédération. Les matchs allés se joueront en fin de semaine prochaine.
Les oppositions des 16e sont aussi connues en Coupe CAF.
Tenant du titre depuis dimanche dernier, le Raja Casablanca affrontera les Gabonais du Cercle Mbéry Sportif. De son côté, l'Étoile du Sahel défiera le Stade d'Abidjan dans une des affiches de ce tour, avec aussi à ne pas manquer Hassania Agadir, Génération Foot du Sénégal, les matchs DC Motoma Pembe, FC San Pedro, Zamalek AS Coton Tchad et l'USM Belabès et Nungu Rangers vaudront également le détour. Les 16 qualifiés rejoindront les barrages où ils affronteront les réversés de la Ligue des Champions pour une place en phase de groupe.
Quadruplé historique pour Toko Ekambi.
Et oui, arrivé à Villarreal l'été dernier, l'international camerounais a déjà marqué les esprits. Karl Toko Ekambi a signé un quadruplé en 24 minutes contre Almeria, une formation de D2 espagnol lors de la victoire 8-0 de son équipe en 16e de finale retour de la Coupe du Roi. Toko Ekambi devient du même coup le premier joueur du sous-marin jaune à marquer plus de 3 buts au cours d'un même match au 21e siècle. NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Les Celtics de Boston ont battu les Knicks de New York 128-100. Les Blazers de Portland ont battu les Phoenix Suns 108-86. Et le Utah Jazz a battu les Rockets de Houston 118-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya veut désarmer les groupes indépendantistes en zone anglophone, de même que les ex-combattants de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Pour ce faire, un comité national chargé de désarmer, démobiliser et réintégrer notamment les milices sécessionnistes a été créé le 30 novembre par décret présidentiel. Mais certains Camerounais restent sceptiques quant aux chances de succès de ce comité, vu l'absence de dialogue avec ces groupes. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Les Camerounais originaires des zones anglophones sont pessimistes sur cette question du désarmement des groupes armés dans le nord et le sud-ouest du Cameroun.
Ces gars croient qu'ils vont réussir avec ce genre de stratégie qu'ils ont pris.
Mélanie Girard est résidente de Woum, une localité où les séparatistes anglophones ont revendiqué l'évasion de 170 prisonniers le 26 septembre dernier.
Si vous voyez le nombre de gars qui sont dans la brousse, sur les routes, qui font les contrôles, qui ont des armes, vous commencez à vous demander comment est-ce qu'on peut vraiment convaincre tous ces garçons-là.
Certains Camerounais anglophones critiquent aussi la démarche du gouvernement.
On crée une commission de désarmement en pleine guerre. Ça n'a pas de sens.
Aya Abiné est responsable d'une fondation qui assiste les déplacés internes et les réfugiés camerounais au Nigeria suite à la crise anglophone.
L'idéal serait d'appeler à un cessez-le-feu et après on procède à désarmer tous ceux qui sont armés des deux côtés. Le gouvernement ne veut pas résoudre la crise.
Pourtant, le 6 novembre dernier, lors de sa prestation de serment, Paul Biya n'a pas caché son intention de ramener la paix en zone anglophone, mais à une condition.
Déposer les armes et retrouver le droit chemin. J'en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain.
Cet appel du président, matérialisé par la création d'un comité de désarmement, fait entorse au dialogue tant souhaité selon des observateurs. Cyril Roland de Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Le président lui-même, il aurait pu prendre plutôt des mesures dans le sens d'appeler les acteurs autour d'une table. C'est ce qui est quand même demandé depuis des années. On ne comprend pas pourquoi il s'entête à aller dans un sens qui est très peu compris.
Le Cameroun est à la recherche d'une solution originale de sortie de crise anglophone. À cet effet, le programme de désarmement est porteur d'espoir.
Il ne s'agit pas d'un DDR classique.
Raoul Soumoutayo est enseignant à l'université de Yaoundé 1 et spécialiste des questions de sécurité.
Il s'agit de mettre en place quelque chose qui relève du sur-mesure, un ensemble de mesures qui vont conduire au désembrigadement relationnel, psychologique, mais également à la sortie de la violence. Il faudrait également que la volonté politique soit là.
Ce sont les villes de Bamenda et Boya qui ont été choisies comme sites de cantonnement des groupes armés en région anglophone qui vont accepter de déposer les armes. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Alors que le Togo est à 2 semaines des législatives, la vice-présidente du Parlement de la CDAO recommande aux autorités de revoir le calendrier électoral. Aminata Tungara estime que précipiter les élections pourrait remettre en cause la paix sociale et la stabilité de la sous-région. Pour une réaction, Morgan Guiriek a joint Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative au Togo.
Je pense que la CDAO ne veut pas se limiter seulement aux recommandations. Il faut une pression forte sur le gouvernement en place parce que la feuille de route a été une décision prise par les chefs d'État. Lorsque le gouvernement en place se soustrait de ses engagements et fait ce qu'il veut, il revient à la CDAO de taper du poing sur la table. Mais visiblement là, la CDAO a des réactions légères qui frisent un peu la complicité. Il faut rappeler le régime à l'ordre, mais il faut un rappel ferme pour que le régime puisse revenir aux fondamentaux de la feuille de route.
Mais le gouvernement dit respecter
est cette feuille de route?
Le gouvernement ne respecte pas la feuille de route, puisque la feuille de route a décliné tout un processus qui doit conduire aux élections du 20 décembre. Le gouvernement de Gaulle aujourd'hui dit oui, la CEDEAO nous a dit qu'il faut faire les élections le 20 décembre. Et puis c'est tout. Or, la CEDEAO dit qu'il faut faire un processus consensuel, il faut une CENI paritaire, il faut faire un recensement, il faut un fichier électoral. Tout ça, le gouvernement ne l'a pas fait ou l'a fait à sa manière et est en train d'avancer dans un processus unilatéral qui ne va pas résoudre le problème. Au contraire, ce processus va créer des tensions.
Face à ces recommandations de la CEDEAO, comment réagit le gouvernement?
Mais le gouvernement continue, dans sa fuite en avant. Non seulement ils ont refusé un processus électoral inclusif, ils ont rejeté aussi le texte de l'expert que la CEDEAO a envoyé au Togo pour proposer une nouvelle forme de constitution.
Mais quand même, la CEDEAO demande aux autorités de revoir leur calendrier électoral. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'elle fasse de plus?
Il faut que cette demande soit une demande ferme. Ça ne peut pas être une recommandation à la légère, parce que la feuille de route, c'est quand même une conclusion d'une réunion des chefs d'État. Sur le plan politique, elle n'est pas capable de régler les problèmes qui se posent dans un pays, et surtout dans un petit pays comme le Togo, où l'alternance même a intervenu depuis 50 ans. Je pense que c'est lamentable pour une institution comme la CEDEAO.
Mais le scrutin, il est prévu dans très peu de temps. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière?
Mais il n'est jamais trop tard pour faire machine arrière quand on voit bien qu'on va dans le mur. Et il ne sert à rien demain d'organiser des élections au Togo qui vont déboucher également sur des morts. Cette élection ne va rien régler dans la crise togolaise. Il n'y aura que juste un report de la crise togolaise qui va nous rattraper plus tard.
Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative au Togo, VOA Afrique a joint les autorités togolaises qui n'ont pas souhaité réagir aux propos d'Aminata Tungara.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Campagne électorale en République démocratique du Congo, revenons sur Beni et le choix de cette ville du Nord Kivu par le candidat de la coalition Lamuka de l'opposition, Martin Fayulu, pour commencer sa campagne. Monsieur Fayulu en a expliqué les raisons dans une interview accordée à Anastasie Toudiech.
Okay. Martin Fayulu en est convaincu, il est porteur des solutions qui redresseront le Congo et il tire sa légitimité, notamment de son parcours.
Je suis d'abord un homme d'entreprise, c'est-à-dire un haut cadre d'entreprise qui a fait, ses preuves. Et j'ai été mobile, devenu ExxonMobil. Et je suis rentré, j'ai investi dans le business pour me permettre de vivre décemment et de faire de la politique sans être corrompu, parce que l'intégrité, pour moi, c'est une valeur cardinale sur laquelle on ne peut pas transiger.
Et s'il était élu, quelle serait la première action des 100 premiers jours du candidat de la coalition Lamuka?
On doit décréter une urgence agricole. Donc, en 100 jours, les 100 premiers jours, les choses seront mises en place pour commencer des cultures, des maïs, par exemple. Lutter contre la faim, c'est la clé. Arrêter la corruption, c'est la clé. Et l'éducation, c'est 4 priorités pour nous, pour lancer le vaste programme que nous avons sur les infrastructures.
Autre caractéristique de M. Fayulu, qui selon certains analystes lui coûte des voix, différents sondages le placent derrière M. Tshisekedi et Shadari, son appel au vote sans utiliser la machine à voter. Que fera-t-il le 23 décembre?
J'y vais voter avec le bulletin papier, mais les citoyens congolais me le disent clairement, il ne faut pas toucher à cette machine parce que c'est la tricherie.
Quant au choix de Beni pour commencer sa campagne...
C'est un symbole important, Beni. Mes frères et sœurs de Beni ont souffert et continuent de souffrir.
À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tudiech.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Faire des études pour sortir de prison, c'est sur quoi misent certains détenus sur le continent. Et sachez qu'un projet dénommé Prison africaine permet déjà à d'anciens détenus de se transformer en juristes. C'est notamment le cas au Kenya et en Ouganda. Grâce à ce projet, des centaines de prisonniers ont recouvré la liberté dans ces deux pays. Irénée Herman Ungbo.
Centre de détention de Kamiti au Kenya. Ici, les prisonniers sont pour la plupart analphabètes, mais surtout pauvres. Ils disposent donc de peu de moyens pour engager un avocat pour les défendre devant les tribunaux ou réclamer le respect de leurs droits humains. C'est ainsi qu'Alexander McLean, alors étudiant en droit dans une université britannique, décide de mettre en place le projet Prison africaine après avoir été bénévole dans des prisons en Ouganda. Amissi Mzari, juriste, est l'un des formateurs de la prison de Kamiti.
Pour suivre une éducation formelle et comprendre les implications d'une vie honnête où leur famille pauvre était incapable de leur prendre un avocat. Donc, l'organisation vient donner à ces prisonniers les moyens d'accéder à la justice et de prendre en main leur destin.
To be able to access justice and be the ones to champion their own fate.
L'expérience peut transformer les détenus et même la façon dont ils sont traités. George Karaba, 45 ans, avait été inculpé de meurtre et condamné à mort. Il était désespéré. À présent, il demande une grâce présidentielle et est devenu un administrateur avec un rôle de premier plan parmi ses pairs ici à la prison de Kamiti.
Une fois que j'ai été condamné à mort, nous avions perdu espoir. C'était fini pour nous, particulièrement à cette époque où ils menaçaient toujours d'exécuter les personnes qui avaient fait appel. Donc, nous étions vraiment perdus et nous n'avions nulle part où aller. Rien à faire pour arranger notre vie. Nous attendions que le mandat soit signé quand le projet prison africaine est arrivé.
Maurice Kaberia se trouvait dans le couloir des condamnés à mort et avait perdu tout espoir lorsqu'il a découvert ce programme. L'ancien policier avait été emprisonné pour vol avec violence et il avait clamé son innocence et dit être victime de montage sans succès. En septembre, l'homme de 47 ans a été libéré après s'être présenté devant un tribunal. Il poursuit actuellement des études en droit à l'Université de Londres.
Rejoindre ce programme m'a redonné vie. J'ai su qu'il était possible de penser plus grand, que les murs ne devaient pas me limiter.
Entre janvier et octobre 2018, 800 prisonniers ont été libérés selon le projet des prisons africaines.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la pneumonie.
Les personnes atteintes de cette maladie respiratoire ont les poumons remplis de pus et de liquide. Elle est responsable de 15% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Aubin Kasongo, pédiatre en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter la maladie.
Nous écouterons aussi le docteur Jean-Fidèle Ilunga du ministère congolais de la Santé. Il nous parlera des politiques publiques qui peuvent être efficaces contre la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Mountou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne, à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.